Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Je suis accompagné de Samuel Lamarche. Bonjour Sam, comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien toi?
Ah ben,
bonne
écoute,
fête des Patriotes,
ben
bonne
oui,
fête de Dolores des Ormeaux, bonne fête de la Reine.
Ben, à tous ceux et celles, voilà justement, soyons inclusifs, soyons multiculturels comme l'autre dirait. Mon Dieu, ça commence bon. Bien.
Arrête, Charles, de me vomir dans la bouche.
Ah ben regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des choses qui arrivent. Non, mais plus sérieusement, cet épisode sort la journée suivant la journée nationale des Patriotes au Québec ou la journée de la Reine ou de Victoria's Day, si on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, en fait, on voulait simplement vous présenter un peu nos opinions à travers ça. Évidemment, moi, je vais avoir une opinion purement historique, si je peux le dire ainsi, tandis que Sam va avoir une opinion un peu plus objective, présentielle de la chose. En tout cas, je vous laisserai vous présenter sa vision des choses. Mais d'abord, je pense essentiel de commencer en disant que pourquoi c'est important de célébrer cette journée-là, c'est pas nécessairement à cause de la rébellion de 37-38, 1800, bien sûr. Mais plus précisément, parce qu'aujourd'hui, être patriote, c'est plus que ça, c'est être quelqu'un d'actif dans la société, c'est faire une différence pour soi-même, certes, mais pour les autres également. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Écoute, Yves-François Blanchet, aujourd'hui, on a parlé... Je vais citer ta conjointe qui m'a néglissé mot. Yves-François Blanchet a parlé aujourd'hui des patriotes devant l'église, l'église ou cathédrale, ma mémoire me fait défaut, d'où les patriotes s'étaient réfugiés avant de se faire brutalement tuer par les troupes britanniques. Mais évidemment, Yves-François Blanchet a fait un parallèle intéressant entre les patriotes du passé et les patriotes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les patriotes du passé étaient ceux qui se battaient pour la liberté et pour une nation indépendante, pour un gouvernement responsable, comme on nous apprenait à l'école. Aujourd'hui, les patriotes, c'est plus, selon M. Blanchet, c'est ceux qui en ce moment mettent leur vie en danger pour protéger leurs concitoyens, des choses comme ça. Je trouve que c'est une perspective intéressante. Je trouve que c'est une perspective qui modernise un petit peu la fête puis qui évite, encore une fois, le fameux ramassis de « on célèbre des défaites chez les indépendantistes ». Parce que maudit qu'on est bon pour ça, c'est ce que je disais à quelqu'un aujourd'hui. C'est pas surprenant que les personnes aient aucune envie, aucune ambition, aucun sentiment que l'indépendance va se faire. On n'arrête pas de leur parler de défaites, on n'arrête pas de célébrer des défaites, puis des moments historiques qui ont fait mal. On en revire le couteau dans la plaie. Les patriotes ne veulent pas, c'est juste un couteau qui est plus ancien. On a perdu pareil, là.
Oui, non, c'est un fait. Puis écoute, cette culture du défaitisme, pour juste en faire un parallèle, parce que je pense que c'est important, elle est incroyablement bien ancrée dans la société québécoise post-Révolution tranquille. Et ça n'en vient presque une tumeur, hein? Cancer, phase terminale, même là, si je peux le dire ainsi. Ou même lorsque on a à célébrer quelque chose de beau, on y trouve malgré tout quelque chose de négatif. Et ce que tu dis a complètement son sens, et c'est vrai. C'est complètement vrai. Justement, tu parlais de ma conjointe, je peux bien en glisser un mot. Tu me mentionnais plus tôt aujourd'hui même, elle me mentionnait plus tôt aujourd'hui même que tu n'étais pas nécessairement d'accord avec les lettres ouvertes concernant les patriotes, justement, que ce soit du Parti québécois, plus précisément, évidemment, parce que vu qu'on est péquiste, ou même de QS, ou peu importe. À cause de cette culture, justement, de la défaite. Mais là, on parle évidemment du référendum de 80 dans ce cas-ci. Là, mais
ouais, c'est ça. Les patriotes, j'avais pas de problème. Parce que ça, c'est ce que je trouve beau au Québec. C'est qu'il semblerait qu'il y ait un consensus politique. Ben, d'ailleurs, le drapeau des patriotes flotte sur l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Deuxième année consécutive.
Effectivement. Deuxième année consécutive. Et donc, j'aimerais ça, que ça devienne une tradition qui se perpétue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce drapeau-là flotte, et c'est un petit peu un consensus historique. Même l'aile jeunesse du PLQ, aujourd'hui, on a fait mention. La CAQ, évidemment, on a fait mention. François Legault a fait un très beau texte, d'ailleurs, sur sa page Facebook, sur les patriotes. Le PQ a fait son travail, François Blanchet, comme on disait. Tout ce qui est Québec, francophone, Et même anglophone, j'imagine que la Gazette en aura parlé un petit peu, peut-être pas de la même façon, mais il va en avoir eu. Puis, c'est quand même intéressant de voir que c'est cette espèce de consensus-là. Par contre, moi, mon problème venait de le 40 ans du référendum, puis on voyait des gens qui s'auto-flagellaient dans le journal de Montréal, le journal de Québec, à faire « Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait gagné? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 40 ans? Les mensonges à Pierre Elliott! On peut-tu arrêter de roter du sucre? » Genre, ça intéresse, je veux dire, ça m'intéresse parce que j'aime ça, l'histoire politique du Québec puis du Canada, ça m'intéresse. Mais Jean-Claude, en Gaspésie, 45 ans, soudeur de métier, en a rien à cirer. OK? Rien. Je veux dire, lui, là, si tu veux le convaincre de faire l'indépendance, là, c'est pas en lui disant que le Canada était ben gros méchant puis que le Québec était le gentil en 80 puis que si on avait fait l'indépendance, on vivrait dans un monde parfait. Que tu vas le convaincre. Pour lui, c'est du pelletage de nuages autant au même titre que QS qui veut nationaliser le trois quarts de l'économie. Là.
Ben non, mais. oui, bon. Non, mais t'as raison, mais j'aime beaucoup par contre l'idée du compromis politique. Bon, il faut quand même. T'as fait part du PLQ. J'aimerais quand même rappeler, pour ceux et celles qui l'auraient peut-être oublié, que le PLQ est quand même à la base des plus grandes révolutions de la société québécoise. Ben, jusque, disons, dans les années 60-70.
Non, t'es méchant. Là. Robert années 80. Écoute, oui, jusqu'à... Okay. Écoute, Charlottetown était une tentative désespérée pour ça, mais...
Ben, c'est... Oui, non, t'as raison, je suis une mauvaise foi. T'as raison.
Jusqu'aux années 90, jusque... Quand Robert Bourassa est parti, paix à son âme, qui est décédé très peu longtemps après d'un cancer de la peau, si je me trompe.
Oui, effectivement.
Et que avant son décès, il commençait déjà à être un peu plus vulnérable, on pourrait dire.
Mm-hmm.
La perte de Mario Dumont puis de beaucoup de l'aile jeunesse pour aller à la DQ, ça a fait vraiment mal au PLQ. Puis c'est pour ça que je dis que je suis surpris, mais agréablement surpris qu'il y ait un consensus, parce que ça fait depuis ces années-là environ que le PLQ n'a pas vraiment parlé de nationalisme, de fierté nationale ou de choses comme ça. Et les Patriotes, ça s'inscrit un petit peu là-dedans. Et c'est pour ça que j'étais surpris de voir la publication de l'aile jeunesse libérale qui parlait de nationalisme et de nation québécoise.
Mais en même temps, Sam... Est-ce qu'ils avaient réellement le choix? Dans le sens où, en ce moment, on va se dire les vraies affaires, comme l'autre dirait. Le PLQ, en ce moment, ils sont à 10% chez le vote francophone. 10%!
C'est sur une bonne journée, en plus.
C'est sur une bonne journée, justement. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment l'option de décider si oui ou non ils vont... faire une lettre ouverte sur la question ou voter à l'unanimité avec le PQ, QS puis la CAQ sur le fait qu'on met le drapeau des Patriotes de 1837-38 au sommet de la tour de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Je me pose la question, puis sincèrement, il faut s'apposer.
Le fait qu'il y avait le choix,
là. Ah oui, évidemment. Mais tu sais, le fait que, malgré tout, s'ils se sentent obligés de le faire, c'est qu'en quelque part, ils ont compris quelque chose. C'est qu'ils ont tellement délaissé dans les 15 années, ben depuis 2003, on va se le dire, cette idée de la nation québécoise au sein d'un Canada uni, comme leur slogan le dit, que, mon Dieu, écoute, les régions, ben je veux dire, c'est pas compliqué, on regarde la carte électorale à l'heure actuelle du Québec, ouais, c'est pas compliqué.
Québec 125 a sorti une carte, je pense.
Ben oui, justement. Écoute, c'est ouais, ridicule.
La rechercher, hein. Même Montréal souffre pour eux. L'Outaouais, c'est compliqué.
Écoute, l'Outaouais, moi, ben, vous le savez depuis le temps, moi, en 2018, quand 3 circonscriptions sur 5 d'Outaouais sont tombées aux mains de la CAQ, j'étais presque aux anges malgré la défaite astronomique du Parti québécois. J'étais presque aux anges. Je me disais, ça se peut pas, ça fait 40 ans que ça va trop. Ça se peut pas. Et pourtant, si. Et là, ben, veut pas, même le parti le plus fédéraliste des fédéralistes est en train de pencher sur la même idée des trois autres partis, comme quoi qu'il doit y avoir un sentiment commun qui habite la classe politique au Québec. Et ça se ressent aujourd'hui, et je suis content de cela. Ça fait 2 ans que ça se produit. C'est certainement dû à l'élection incroyable d'une majorité démesurée de la coalition Avenir Québec.
Serait encore plus démesurée s'il y avait un vote aujourd'hui.
Ah, ben, définitivement. Écoute, non.
La projection, c'est à 85 sièges.
Oui, regarde.
Donc, c'est un massacre. C'est un assez violent. Le PQ tombe à peu près à 6-7. QS, à peu près 7. PLQ, maintient à 26, à peu près 25-30.
Ouais, c'est ça, là, c'est parce que, bon, ce qui aide beaucoup cette partie-là aussi, encore une fois, on se mentira pas, c'est le fait qu'ils sont. Que leur base militante, c'est l'une des plus fortes. Hein? C'est normal. C'est un parti qui a plus de 150 ans d'histoire. Donc, c'est normal que leur base militante se soit perpétuée de génération en génération. Et aujourd'hui, quand on parle de l'idée des patriotes, moi, depuis le moment où je suis capable de raisonner, si je peux dire, j'avais de la difficulté à comprendre comment que le Parti libéral du Québec pouvait si facilement se dissocier de cela, en sachant justement toutes les grandes révolutions qu'ils ont accomplies jusque dans les années 90.
Mais pour en revenir un petit peu aux patriotes, c'est intéressant de voir. C'est intéressant de voir le consensus, mais c'est intéressant aussi de voir que certaines. C'est intéressant un petit peu moins, mais qu'il y a certaines personnes qui essaient de se réapproprier le nom patriote, la marque de commerce patriote, à des fins politiques. Il y a même un parti qui s'est créé du nom Parti Patriote qui, selon moi, est une insulte aux patriotes de l'époque. Là. C'est vraiment gênant, même.
Ça me semble être...
C'est triste de voir qu'un symbole comme ça qui, en ce moment, nous unit, il y a des gens qui tentent de le transformer en un symbole vraiment associé à une idéologie. Et donc, ça, c'est quand même... Tu sais, faut faire attention avec ça, les gens. Les symboles nationaux, si on y fait pas attention, c'est très, très rapide que quelqu'un peut les reprendre et les utiliser à leur propre avantage.
Ça s'effrite très rapidement. Et pour enrichir, on oublie souvent que cette idée du patriotisme québécois, en fait, c'est beaucoup plus large que juste le fait québécois ou bas-canadien comme au 19e siècle. À la base, c'était pour l'indépendance du Canada uni comme on l'a appelé à la suite de 1840, mais ça comprenait et l'Ontario et le Québec. Tu sais, c'était une idée de fédération. Donc, en quelque sorte, c'est le Canada actuel est un peu le résultat qui... C'est un peu le résultat de la victoire comme de la défaite. Parce que dans les deux cas, on aurait eu le Canada à peu près comme on le connaît aujourd'hui, mais juste avec un régime politique hautement différent. Tu sais. Alors,
je pense qu'un Canada des patriotes aurait quand même été plus respectueux des minorités francophones.
Ah, ben, définitivement, oui, mais là, écoute.
Il y aurait eu vraiment un autre portrait politique.
Non, c'est ça, la dynamique serait complètement différente, ça, c'est certain. C'est certain.
Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a toujours des différences. On peut toujours se poser plein de questions, faire plein de suppositions, un peu comme le fameux texte de « Et si on avait gagné en 1980 », que je trouve juste essayer de se faire mal, rendu là. On peut se poser plein de questions, ça n'arrivera pas. Ce qu'on peut se dire, par contre, c'est que, selon moi, puis je suis quelqu'un qui aime quand même pas mal l'histoire, moins que toi qui étudies là-dedans, mais j'aime quand même ça. Et les patriotes, moi, de l'époque où j'ai fait mon école, et là, j'ai fini mon secondaire 5 en 2015, je pense. Un bout. Puis j'ai pris tous les cours d'histoire que je pouvais prendre. Puis les patriotes, là, c'est pas le bout qu'on parle le plus. Vraiment pas. T'sais, on connaît Louis-Joseph Papineau, on connaît les demandes pour un gouvernement responsable, puis des choses comme ça, mais on connaît pas vraiment les batailles, on connaît pas les têtes d'affiche, on connaît même pas les personnes qui ont été pendues ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve que l'éducation nationale fait un piteux travail sur l'histoire du Québec. Elle canadianise, si c'est un mot qui se dit. L'histoire québécoise n'existe plus dans son contexte propre, mais toujours dans un contexte par rapport à celle du Canada. Je trouve que c'est un petit peu comme si on faisait juste... Bon, on était un objet, un sujet de la France. On est devenu un sujet britannique et on n'a jamais été rien d'autre que ça. On est juste une colonie, une province. Et ça changera pas. Ça a toujours été comme ça. Ça changera jamais. Et on n'est pas important à l'international. On n'a jamais... On n'entend pas parler genre du rôle du Québec dans la Constitution de 1867. On n'entend pas parler du rôle du Québec dans le financement vraiment des canaux pour le Haut-Canada puis pour Toronto. On n'entend pas parler du Québec et de son rôle et Robert Bourassa dans l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Des choses comme ça qu'on aurait besoin d'apprendre pour se donner un petit peu le sentiment que le Québec, c'est pas juste un endroit où on fait de l'hydroélectricité puis qu'on vote non à des référendums. Là.
Ah non, mais écoute, c'est un bon point. Puis misère, ben je veux dire, on le sait bien, là, c'est pas nous qu'on. On n'a pas à se convaincre de cela, mais on le sait. Au Québec, on a cette richesse technique, matérielle, naturelle, bref, nommez-la, on l'a. Et elle est constamment rétrogradée par, justement, on en revient vraiment au début du balado quand on parlait de la culture du défaitisme. Et là, tu vas soulever mais le point, là, mon cher, là, mon Dieu. Cette culture du canadianisme. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est crucial parce que... On sait... Ben, disons, les Canadiens français, pour ne pas dire Québécois, se sont fait confisquer tous les emblèmes qu'ils avaient. On a dû s'en créer des nouveaux et c'est comme ça que le Québécois est né, hein, la personne résidente du Québec, et non plus canadien-français. Alors, il y a une panoplie, en fait, d'événements consécutifs qui se sont... puis on parle pas d'un temps extrêmement long. Là, on parle d'une centaine, 150 ans dans le gros max, là. En 150 ans, il y a tout ça qui s'est mis en place, qui a mené à la culture et à la société qu'on a décidé d'être aujourd'hui. Et pourtant, malgré le fait qu'on a voté non deux fois de suite en 80-95, malgré le fait qu'on a perdu en 1837-38, on les a toutes perdues. T'sais, on va pas se mentir, on les a toutes perdues.
On pourtant, pourrait dire qu'on a réussi à aller chercher un petit peu ce qu'on voulait avec 1867, par contre.
Oui, ça c'est certain.
Diplomatiquement. Il y en a j'ai eu un débat là-dessus l'autre jour avec certaines personnes qui disaient que le Québec avait été un petit peu forcé à 1867. Moi, je suis pas d'accord. Avec ce que j'avais compris, le Québec avait négocié de bonne foi 1867.
C'était plus une...
C'était pour se protéger. Là. De cette façon-là, on était certain que les provinces avaient pouvoir sur la santé et l'éducation. L'éducation, à l'époque, protégeait la langue et la religion.
Non, effectivement. Il y avait aussi le fait que ça... Bon, c'est peut-être aussi pour ça que certains se plaisent à célébrer la journée de la reine, en fait. Mais il faut pas quand même nier que Sa Majesté, Victoria II, pour la nommer, avait quand même ce faible... un faible, justement, pour tout ce qui était la culture française, mais elle adorait également la langue, parce que dans ce temps-là, il faut pas oublier que c'était la langue...
C'était prestigieux.
Exactement, c'était le prestige. On parlait français, on était quelqu'un de renom, tu sais. Alors, le fait qu'une société, au sein d'une de ses colonies conquises il y a peu, il y avait 100 ans passés, puisse avoir ce dialecte avec, veux pas, un accent et une culture complètement différente que celle des Français européens, eh bien, ça a quand même attiré le Parlement de Londres, hein, londonien, à justement accepter quand même certaines revendications, premièrement, qui dataient de 1837-38, et à dénoncer, et ça c'est très intéressant, et à dénoncer des reproches de Lord Durham dans son fameux rapport de 1839. Alors ça, c'est très, très, très pertinent dans ce cadre-ci, parce que il y a
je fais pas partie des... Il y a un mouvement, une frange souverainiste qui déteste viscéralement la royauté et le régime britannique. Moi, personnellement, et après ça, on m'accusera d'être pas assez informé, le régime britannique nous a pas plus maltraités que le régime français. Le régime français nous a laissé pas mal pour mort pendant la guerre. Ils nous ont pas vraiment plus aidé que ça. Le régime français était dans une grosse politique de mercantilisme, donc n'aidait pas du tout au développement économique de la colonie. N'a pas aidé au peuplement de la colonie par un laxisme des politiques à l'époque. Alors que de l'autre côté, le gouvernement britannique, effectivement, a mis en place des politiques assimilatrices à certains moments. Mais j'ai plus tendance à blâmer le Canada que le régime britannique pour ces politiques-là. Parce que les premiers gouverneurs britanniques, puis là, tu me corrigeras parce que c'est tout en histoire, les premiers gouverneurs britanniques ont quand même été assez... Tu sais, où il y avait le serment d'allégeance, le serment du test, puis tout ça. Les premiers gouverneurs britanniques n'ont pas appliqué toutes les recommandations à la lettre. Ils ont été comme, non, on vient juste de sortir de la guerre, on n'ira pas mettre la guerre civile ici. Là, on va y aller plus respectueusement un petit peu. Ils se sont mis le clergé de leur côté, puis tout ça. Puis,
exactement.
Puis on a réussi à protéger notre façon de vivre comme ça, dans une espèce de nationalisme plus reclus, plus de subsistance à l'époque. De Honoré Mercier, Lionel Groulx, tout ça. Beaucoup plus un nationalisme de subsistance. Et le mouvement des patriotes, a commencé, je pense, le mouvement nationaliste plus ambitieux. Et c'est-à-dire, où, là, on était nationaliste, mais pas seulement pour survivre, mais bien pour grandir. Ça, c'est ma compréhension du mouvement patriote, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est importante comme ça aujourd'hui, puis qu'elle est universellement appréciée par tous les partis, maintenant, en tout cas en ce moment. C'est parce que ce mouvement-là a lancé le nationalisme québécois qui, contrairement au nationalisme en Europe, n'a pas une connotation négative. Enfin, pas pour la majorité des Québécois.
Effectivement.
On en parle, puis on se dit ça. Oui, Joseph Papineau était un nationaliste canadien, à l'époque c'était ça le nationalisme, mais son nationalisme ressemblait quand même beaucoup au nationalisme québécois actuel. Par contre, il était républicain dans son nationalisme, lui. Oui. Parce que plusieurs souverainistes ont aussi comme nationaliste, là, mais Louis-Joseph Papineau était une solide tête politique pour l'époque. Là.
Non,
il ne peut pas juste balayer du revers de la main son héritage politique parce qu'il a perdu.
Sieur Papineau, plus que cela, c'est qu'il avait bien compris le couteau que les Britanniques savaient rentrer dans le pied. En 1760, une proclamation royale qui, justement, je ne répéterai pas qu'est-ce que tu as dit, mais tout ça, et en pressant en 1763 avec l'acte de Québec, etc., etc., etc.
Quasiment directement à la guerre civile des États-Unis.
Justement. Alors, Sieur Papineau a bien compris ce couteau dans le pied-là, et il a tout simplement décidé de l'enfoncer davantage. Et, ça l'a mené à ce qu'on connaît, mais regardez aujourd'hui, par contre, les résultats. Personne au Québec et dans le reste du Canada, même pas le gouvernement fédéral, à moins, de XY désaccord massif, là, si on peut dire ça comme ça, va venir dire à l'Assemblée nationale du Québec, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas le droit, retirez-moi ça tout de suite, sinon, paf, tu sais, il n'y a personne qui va faire ça, là. Il n'y a personne.
Règle générale, le gouvernement canadien, quand il intervient, c'est très, très rare. C'est la population, à cause de la charte. Honnêtement, ça, c'est le pire couteau qu'on a reçu, tant qu'à moi, c'est la charte de Trudeau. Parce que avec l'accord de 1867, on avait des délimitations très claires de qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire. Et c'était bien comme ça. C'était le Parlement qui représentait la souveraineté populaire.
Oui,
Et là, avec la charte, on a donné un pouvoir, mais beaucoup trop grand, selon moi, aux juges qui sont devenus l'espèce de... À l'époque, les rois faisaient écouter leur sujet pendant une journée là, pour écouter leurs doléances, pour leur donner ce qu'ils voulaient ou non. Et les juges sont un peu devenus ça, selon moi. C'est-à-dire que François Legault passe une loi et le lendemain, on a déjà 6 regroupements religieux qui contestent la loi. Tu sais, je veux dire, c'est pas une démocratie saine, ça.
Le pouvoir judiciaire est... il est libre à tout le monde d'avoir son opinion là-dessus, mais selon moi, le pouvoir judiciaire, c'est un peu notre nouveau despotisme éclairé. Tu sais, on a le pouvoir exécutif et législatif qui sont pourtant les deux principaux piliers du pouvoir, mais pourtant, le pouvoir judiciaire aura toujours le dernier mot. Alors, je sais pas, moi, là, avoir le choix entre écouter et accorder ma confiance à un élu pour qui j'ai voté, ou accorder ma confiance à un juge dont j'ai aucune idée c'est qui, j'ai jamais
entendu. Nommé par l'exécutif de manière c'est pas très clair comment est-ce que ça fonctionne. Puis...
Je sais pas, là, tu sais, moi je me pose la question, sincèrement, là, à quel point j'accorderais ma confiance à cette personne-là, plus à la personne à qui j'ai voté. Non? C'est une espèce de paradoxe assez particulier, mais ça démontre à quel point, pour nous, du moins dans une monarchie constitutionnelle comme le Canada, les séparations de pouvoir, c'est primordial dans la démocratie. Et, ça c'est pas le genre de truc qui aurait pu voir justement le jour avec... comme tu l'as mentionné, le régime français. Donc, il faut... je partage complètement ton opinion quand tu dis qu'il ne faut pas retirer aux Britanniques ce qu'ils ont réussi à nous donner, c'est-à-dire la démocratie et une pseudo-liberté. Il ne faut absolument pas leur retirer ça. Non?
À tout le moins, si les gens ne seraient pas d'accord qu'ils nous ont donné ça... Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'ils nous ont donné la liberté. Je pense qu'on s'est battu pour aller la chercher.
OK, oui.
Notamment avec les Patriotes. Par contre, quelque chose que les Britanniques nous ont donné, mais ça, je pense que personne ne peut vraiment s'assurer, c'est des institutions démocratiques solides. Le modèle britannique, autant je déteste la façon de voter avec le système où la CAQ obtient 37% des votes, mais obtient la grande majorité des sièges comme ça, il n'y a pas de proportionnalité de pantoute. Ça, je trouve que à l'époque, ça faisait du sens. Les limitations technologiques forçaient ça. Je veux dire, tu pouvais pas tout le temps faire des... Je veux dire, OK, il y a des pays comme la France qui ont fait avec les plébiscites, là, mais c'est compliqué à faire en maudit. Là. Ça prend des ressources, puis en plus, ça a pas tout le temps bien viré. C'était un bon outil pour éviter la tyrannie à l'époque, de pas avoir un plébiscite, justement. Ça rendait la chose beaucoup plus compliquée. Mais, à part ça, le système de séparation des pouvoirs est quand même bien. Le système de la rigueur des cours de justice au Québec. Comparez simplement le système de justice et britannique et canadien avec le système américain. On n'est pas dans la même cour. Comparez les institutions canadiennes comme le CRTC, des choses comme ça, comparez aux institutions américaines, encore même les institutions européennes. Ça compétit. On est vraiment de ce côté-là, on a des solides institutions. Et là, Québec s'en est inspiré. Hydro-Québec, la société de l'alcool, l'Auto-Québec, tout ça, ça, c'est des sociétés d'État qu'on a mis en place. Mais après, quand tu regardes Revenu Québec, la Cour d'appel québécoise, le Code civil, des choses comme ça, pour la plupart de nos institutions qui s'occupent de la démocratie au Québec sont assez solides quand même. T'sais, je veux dire, demain matin, quelqu'un rentre au pouvoir, je lui souhaite bonne chance de vraiment réussir à centraliser les pouvoirs en un seul mandat. T'sais, je veux dire, ça prendrait des années et des années. Il y a une situation politique exceptionnelle pour dire. T'sais, je veux dire, le système britannique, la façon qu'il est construit, mène à une certaine stabilité. Ça force le consensus, surtout avec un système fédéral, comme avec le Canada, ça force constamment le consensus. Donc, quand c'est le temps d'être décisif, on l'a vu avec le coronavirus, des fois, ça jambe. Des fois, ça fait que c'est pas parfait. Ça a cet inconvénient-là qu'en situation de crise, parfois, on l'a vu, première, deuxième guerre mondiale, quand c'était le temps de mettre la conscription, ça fait bon bordel, ça n'avait pas de bon sens. Quand c'est le temps de mettre des lois, mettons, ou une charte, ça a pris quoi? Pierre-Éliott Trudeau s'est battu pour avoir une charte puis une constitution pendant quoi? 15 ans? Pour ses proches pas l'avoir, ça s'est rendu genre au Conseil de Londres. Le livre de Frédéric Bastien explique très bien ça, d'ailleurs, la bataille de Londres. Et, je veux dire, ça force les consensus, ça force les négociations.
C'est sûr.
Et ça force à avoir des institutions qui permettent d'avoir des négociations comme ça, qui seront maintenues par la suite. Ils peuvent pas être juste être tassés. Comme on voit aux États-Unis, où un président fait quelque chose, et le président d'après s'amuse à détruire ce que vous avez fait avant.
Ouais, de mémoire, au Canada, cette nouvelle... Ben oui, parce qu'on peut le dire comme ça, cette nouvelle vision des choses, un peu en contradiction justement avec le système américain, s'est mise en place précisément en 1935. Je crois t'en avoir parlé déjà, c'est quand justement l'Ontario a dénoncé en fait une mesure du gouvernement fédéral concernant les la loi du travail.
Oui, tu
m'avais dit. Qui avait été mise en place par la SDM dans le temps. Et que, bon, justement, là, l'Ontario, à cause, justement, des cadres légaux, des pouvoirs provinciaux, fédéraux, bon, enfin, bref. Et c'est en 35 ou 37, mon Dieu, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est dans ces années-là que la Cour suprême du Canada s'est mise en place, justement, pour se détacher, justement, de cette emprise judiciaire de Londres. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on pourrait considérer que le Canada est bel et bien devenu un pays indépendant sur tous les sphères de pouvoir.
OK.
Et ce que ça a mis en place, ben justement, je l'ai dit, la Cour suprême, qui reprenait mot pour mot, là, ou presque, exactement le même pouvoir que ce que Londres appliquait exactement, le Conseil de Londres, pour le nommer. Donc, on voit que, en quelque part, encore une fois, on revient toujours à cette idée-là, hein, mais on voit bien que les répercussions de post-1840 se sont vraiment étirées jusqu'à accorder au Canada ses pleines capacités à s'administrer, à gérer son économie, etc. Bon, enfin bref, nommez-le. Donc, on veut pas, le pays est devenu vraiment indépendant à travers une série d'événements perpétués par le patriotisme, bon, d'une part canadien, évidemment, mais par la suite québécois, mais ça, c'est une autre histoire, tu sais. Bon, enfin bref, on s'est
parti. Les gens ont tendance à pouvoir mettre un point comme ça, dire « Ah, c'est de là que c'est arrivé », mais règle générale, l'histoire n'est pas... Les patriotes, on se souvient des rébellions de 37-38, oui, mais il y avait des mouvements avant ça.
Là, c'est ça, c'est après, plus là. Que ça, exactement. C'est plus que ça. Ça s'inscrit dans un cadre historique, comme toujours, hein, comme n'importe quoi, au final. Hein. Je veux dire, on pourrait remonter au début de l'humanité, mais c'est tellement compliqué à mettre en mots, et encore plus en écrit. Il faut juste le comprendre et l'assumer rendu là, je crois. Là. Ça demande un travail, ça demande un minimum de travail intellectuel à chacun pour vraiment comprendre de où on vient et pourquoi on doit être fier de qui on est malgré les défaites, malgré les victoires. Faut juste être capable d'assumer ce qu'on est et une fête comme celle de la Journée des Patriotes ou de la Victoria Day ou de la fête de la Reine, peu importe. C'est le bon temps de l'ordre des hormones, exactement. C'est le temps de se rappeler de ces choses-là. Peu importe vos allégeances politiques, c'est essentiel. C'est essentiel pour une mémoire collective.
Oui, parce que, entendons-nous, les patriotes en 1837-38, tu sais, je veux dire, puis là, je fais une comparaison, puis certains ne seront pas d'accord, mais ce mouvement-là a commencé le nationalisme canadien-français, on va dire. Ben, il n'a pas commencé, mais il l'a accentué à un niveau beaucoup plus omniprésent dans la sphère publique. Les patriotes n'arrivent pas. Est-ce qu'un homme comme Maurice Richard aurait réussi à aller chercher une... à aller piger dans cette espèce de mémoire collective, d'identité collective comme il a pu faire? Moi, je pense pas. T'es l'espèce de mythe fondateur qui a permis des hommes comme Maurice Richard, comme après ça des Jean Lesage dans la politique, et comme bien d'autres encore, tu sais, je veux dire, on a eu plein d'exemples. René Lévesque, Robert Bourassa dans une certaine mesure, Camille Lorrain, Gérald Godin. Il y en a eu plein. Je veux dire, Joseph Papineau encore plus loin en arrière. Là, j'ai un blanc de mémoire. Il y avait un monsieur qui nous avait parlé d'un diplomate, le premier diplomate québécois en France. Et là, vite comme ça, le nom m'échappe. Mais c'était très intéressant, son histoire. Tout ça, dans une certaine mesure, on pourrait dire que ces personnes-là étaient des patriotes. Se réclamaient du mouvement des patriotes. Maurice Richard, indirectement, évidemment, parce qu'il ne s'est jamais vraiment mouillé en politique plus que ça, à ma connaissance. Mais c'était tous des patriotes à leur façon. Et encore aujourd'hui, on en voit des patriotes. Puis, je veux pas politiser la chose, mais selon moi, tous les députés qui acceptent de servir à l'Assemblée nationale, surtout en ce moment, sont des patriotes. Même les libéraux les plus fervents croient en la suprématie du droit canadien, du droit québécois, l'autodétermination du Canada ou du Québec, dépendamment de où est-ce qu'il se situe, mais ils croient en un gouvernement qui a ses pleines responsabilités sur son territoire, dans les deux cas. Donc, ils s'associent directement à des patriotes. Ils se réclament directement des patriotes. Toutes les personnes qui militent chaque jour pour faire du Québec un pays, faire du Canada un pays meilleur, toutes les personnes qui travaillent activement à aider les autres font partie des patriotes. Et c'est pour ça que je trouvais le message de Yves-François Blanchet particulièrement d'actualité. Que tu sois un homme, une femme, proche de la retraite, que tu commences en sortant de l'école, que tu sois un pur laine, comme on dit, ou on en entend beaucoup parler en ce moment, un immigrant haïtien, de la communauté haïtienne. Quand tu travailles dans les CHSLD en ce moment, tu es sur le front d'une guerre, t'es un patriote. Parce que tu te bats pour tes compatriotes. Donc, le mouvement évolue avec le temps, c'est normal, comme tous les mouvements.
C'est clair. Non, c'est clair. J'ai hâte, en tout cas, de voir, pour revenir un peu dans le présentiel, j'ai hâte de voir dans les deux prochaines années, avec le reste là, du mandat de la CAQ, ce qui va en être de cette volonté nationale, voir où est-ce qu'elle va nous mener. J'ose me mouiller. Je prévois quand même que la CAQ remporte les prochaines élections, mais je pense
que... Oh wow! Quelle prédiction audacieuse, Jonathan! Mais sincèrement, tu prends un gros risque.
Je pense pas que j'invente quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, c'est juste dans l'idée où...
Ah, sérieux, si la CAQ a gagné pas les prochaines élections, là...
Il y a un méchant problème, je suis complètement
d'accord avec... On va en parler dans les livres d'histoire comme étant un effondrement massif.
Ah oh non, mais écoute, ça l'aurait...
Je pense même pas que ça soit faisable qu'ils perdent, honnêtement.
Non, honnêtement, au pire, ils font... Non. Au mieux, ils font pareil. Au pire, ils... Bon, enfin, bref. Ils
vont être dans le pire des cas, mais ils perdront pas, c'est sûr.
On s'entend, là. Alors, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de voir dans les deux prochaines années et même, bon, dans les six prochaines années, ce qui va en être, parce que c'est typiquement le genre de choses que le Québec a toujours eu besoin. Un nouveau mouvement politique pour... T'sais, juste rembrayer la voiture vers quelque chose d'un peu plus intéressant que le statu quo. J'ose pas me mouiller plus que ça, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir ce qui va se produire dans les six prochaines années.
Moi aussi. Moi, par contre, j'ai hâte aussi qu'on puisse enfin sortir de chez nous, sérieusement. Là, ça...
Ah ben, avec un peu...
On parle de célébrer la fête des patriotes, là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Moi, je suis sorti dans un parc. C'était ma journée. C'était...
Écoute, elle n'a pas été bien plus intéressante la mine, pour être franc. Mais bon.
J'espère que pour la Saint-Jean, on pourra faire quelque chose de sérieusement.
Ah, oui, mais merde, ça serait-tu donc plate? Hein, qu'un peu, tu penses un 24 juin, on doit être confiné chez nous parce que...
Il y aura juste un mois pour qu'on puisse faire quelque chose pour la Saint-Jean.
Effectivement, un mois, c'est ça.
Nous écoutent, je vous demande collectivement de croiser vos doigts ou de prier, si vous préférez, pour que nous puissions sortir un peu, au minimum, pour la Saint-Jean-Baptiste. Et pour les autres, si vous préférez, qu'on puisse sortir pour la fête du Canada. Dans les deux cas, c'est votre choix de célébrer laquelle, ou les deux, peut-être que vous êtes. Vous célébrez les deux. Au moins une des deux, Boswell, tu sais, parce que
au minimum.
Ça, je veux dire. On aime ou on n'aime pas. Moi, je me souviens que le 150e du Canada, moi, j'avais été aux célébrations aux plaines d'Abraham pour profiter des spectacles gratuits. C'était, tu sais, je veux dire, c'est, ça fait partie quand même des, on peut pas juste dire, ah, ben, tant qu'à être là, on peut pas faire comme Maurice Duplessis faisait, ah, non, mais je suis dans le Canada, mais je refuse tous les bénéfices, mais je prends tous les coûts. Ben non, tu sais, je veux dire, tant qu'à être dedans, tu prends et les bénéfices et les coûts. T'assumes la responsabilité. Et donc, la responsabilité vient aussi avec des libertés et avec des avantages. Mais enfin, bref. Je pense qu'on pourrait conclure avec ça, Jonathan, là, même qu'on a déjà dépassé le stade de l'intéressant. J'espère que non.
Écoute, dans tous les cas, ça reste quand même une bonne conversation que je pense qui était quand même essentielle juste pour... Tu sais, juste un rappel pour dire... qu'une journée comme celle-là existe pour une raison. Enfin bref, on vous laisse avec cette interrogation. J'espère que ce balado vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer notre page Facebook. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.